15h, 17h.
Le Mac de l'après-midi, Sud Radio.
Le Mac de l'après-midi.
Marc Leval.
Merci d'être avec nous cet après-midi pour ce Mac de l'après-midi, deuxième partie, avec deux témoignages. Oui, car ce sont deux témoignages qui vont tout de suite nous mettre au cœur dans le bain du thème de l'émission aujourd'hui. Elle s'appelle Claudie, elle a 26 ans, elle est secrétaire. Elle dit « Si je n'ai rien de prévu ce soir, je vais angoisser ». Oui, car chaque soir, elle dit « Je prévois soit un resto, un ciné avec des amis. Si je n'ai aucun plan, c'est l'angoisse totale. Je reste au bureau jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Même si je n'ai plus rien à faire, je ne supporte pas de rentrer chez moi dans une maison vide. Premier réflexe, j'allume la télévision pour avoir au moins une présence. Je m'endors même devant la télévision. J'ai l'estomac noué. Je ne peux rien avaler. Je marche dans ma chambre, du salon à la chambre, de la chambre au salon comme une âme en peine. Ouh, Claudie a un problème. Et puis Alain, qui a 32 ans, qui est compositeur, qui dit également « Je déteste que Marie, sa compagne, sorte sans moi, même ne serait-ce qu'une heure. Depuis que j'ai rencontré Marie, nous sommes absolument inséparables, dit-il. J'ai besoin de tenir sa main dans la mienne tout le temps, de la regarder, d'entendre le son de sa voix. C'est stupide, mais je déteste qu'elle sorte sans moi, même ne serait-ce qu'une heure. J'ai l'impression qu'elle m'abandonne. Je ne fais rien, j'attends son retour. Heureusement, j'ai mon chien. En fait, dès que je suis seul, j'ai l'impression de ne servir à rien, de ne pas être aimé, d'être nul et de ne pas exister. » Bon, vous l'aurez compris, il y a un petit problème là, visiblement. C'est le fameux « je ne supporte pas de rester seul » ou, si vous préférez, la phobie de la solitude. Voilà de quoi nous allons parler cet après-midi. Pour certains, solitude est synonyme de sérénité, de maturité. L'autre, pour d'autres, en tout cas, la solitude est synonyme de tristesse et d'abandon. Alors pourquoi? Est-ce que c'est la peur du silence, la peur de l'obscurité, la peur de soi-même, de se retrouver face à son monde intérieur? Ouh là, tout cela est très philosophique. Mais pourquoi donc cette peur? D'où vient ce ressenti, cette inégalité face à la capacité d'être seul? Alors on va en parler avec nos spécialistes qui sont là. Le docteur Bailly est avec nous, Daniel Bailly, psychiatre, qui a écrit entre autres « La peur de la séparation » aux éditions Odile Jacob. Là on va commencer du tout petit, hein, des bébés jusqu'à l'âge adulte. Nicolas Bichot également, psychologue, qui viendra nous parler des différents témoignages et notamment de ce qu'il vit dans son cabinet, hein, ceux qui viennent le consulter. Et puis on aura tout à l'heure Alexandra Rivière, qui est psychologue clinicienne, qui elle aussi souhaitait intervenir sur cette thématique. Peur de la solitude, pourquoi ne supportons-nous pas de rester seul? C'est ce que nous allons voir. Élément de réponse, si vous êtes concerné, vous pouvez nous appeler, hein, 0826 300 300. Si vous n'êtes pas concerné, bah, comment vous dire, vous pouvez nous appeler aussi. Allez, à tout de suite, une pause.
Marc Leval,
le Mac de l'après-midi,
Sud Radio.
Cette phobie, la peur de la solitude qui touche beaucoup, beaucoup de gens, plus qu'on ne l'imagine. On va en parler dans le détail avec mes invités, le docteur Daniel Bailly qui est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci d'être là. Psychiatre, bien sûr, et auteur de ce livre « La peur de la séparation » aux éditions Odile Jacob. Car peut-être que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, là maintenant tout de suite, c'est de savoir si aujourd'hui, à l'âge adulte, si on subit cette peur de la solitude, cette phobie de la solitude, s'il n'y a pas un lien de cause à effet avec ce que nous avons vécu dans notre enfance. Et c'est la question que je vous poserai dans un instant. Nicolas Bichot est également là, psychologue. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci infiniment de nous accorder quelques minutes pour évoquer donc cette thématique. Est-ce que cette peur de la solitude, il n'y a pas beaucoup d'études, il n'y a pas beaucoup de chiffres, docteur Bailly, sur la manière dont on pourrait comptabiliser, si je puis dire, ceux et celles qui en souffrent?
Mais c'est-à-dire que la peur de la solitude en soi, ce n'est pas un trouble. Ça rentre dans le cadre d'autres difficultés, comme de la peur de la séparation dont vous avez parlé, où là on a quand même pas mal de chiffres, ou ça peut rentrer dans le cadre de troubles de la personnalité, comme par exemple les personnalités état-limite, qu'on appelle état-limite, qui ont une peur d'être abandonnées, une peur de ne pas être aimées, et où là aussi on a quelques chiffres.
Alors justement, est-ce que, c'est ce que j'évoquais en tout début d'émission, est-ce qu'il y a un lien entre ce que nous avons vécu dans notre enfance, petite enfance, adolescence, et ce que nous vivons aujourd'hui à l'âge adulte quand il s'agit d'évoquer cette thématique de la solitude et de la peur de la solitude?
Bien sûr qu'il y a un lien. Pour ne pas ressentir la peur de la solitude, il faut qu'on ait une sécurité interne suffisante qui nous donne la possibilité de vivre seul au milieu des gens. Si on n'a pas construit cette sécurité interne, on a constamment peur de se retrouver seul, de ne pas être aimé, d'être abandonné, et on a besoin constamment d'avoir des objets autour de soi qui nous rassurent sur ce qu'on est.
Parce qu'on pourrait s'imaginer qu'à l'âge adulte, bon, vous savez, c'est toujours la réflexion qu'on se dit, enfin, ça suffit maintenant, hein, t'es un homme, t'es grand, t'as plus besoin d'avoir effectivement de ce ressenti-là, c'est même à la limite absurde. Mais non, c'est quelque chose qui nous suit très longuement, tout au long de notre vie quasiment.
Bien sûr, bien sûr. Alors, l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de dire que puisque tout vient de la petite enfance, ce serait à cause de l'éducation. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand des difficultés surviennent, ces difficultés sont toujours la résultante de plusieurs facteurs.
Lesquels, par exemple ?
Nous ne naissons pas égaux. Contrairement à ce que affirment beaucoup de gens, dès la naissance, nous sommes tous différents et certains enfants naissent avec une vulnérabilité liée à des traits de tempérament qui peuvent les prédisposer à une peur de cet ordre-là. Certains enfants vivent aussi des expériences de vie négatives qui comportent des signaux de séparation ou de perte. Et on sait que la répétition de ces événements de vie va entraîner une autre vulnérabilité de cet ordre-là. Contrairement à ce qu'on croit, généralement, l'être humain ne s'habitue pas aux expériences stressantes. Plus vous vivez des expériences de cette nature-là, plus votre vulnérabilité augmente et plus le risque de voir apparaître ce genre de trouble augmente. Alors, et puis, bien évidemment, il y a les attitudes éducatives parentales.
Alors, on va détailler tout cela, c'est important pour ceux et celles qui nous écoutent. Est-ce que, tiens, si vous êtes à l'écoute de cette émission et si vous avez cette espèce de phobie de vous retrouver seul à la maison, par exemple, ou la peur de ne pas être en contact avec quelqu'un, ce manque, n'hésitez pas à témoigner, hein, 0826 300 300. Nicolas Bichot, vous êtes psychologue, je le disais. Est-ce que cette thématique, cette peur, cette phobie de se retrouver seul dans votre cabinet, est-ce qu'on en parle facilement ? Est-ce que c'est une thématique qui revient souvent ou c'est quelque chose plutôt tabou qu'on n'a pas franchement envie de mettre sur le devant ?
Alors là, je rejoins la réflexion de Daniel Bailly, en fait. Vu que la peur de la solitude n'est pas considérée comme un trouble, le thème arrive fréquemment, en fait, en entretien, mais de moyens assez indirects. Alors ça peut être au travers des problèmes rencontrés dans le couple, où certaines personnes se sentent totalement dépendantes de leur partenaire. Ça peut être aussi une dépendance envers les parents ou d'autres figures d'attachement, où la personne se sent exclusivement attachée, ont l'impression de ne pas vivre sans l'autre. Puis après, il y a aussi l'autre version des personnes qui expriment des phobies, dans le sens où dès que les personnes se retrouvent seules, elles ont une peur intense d'être confrontées à leurs angoisses, à leurs fantasmes, à des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment en entretien. Et les personnes, oui, l'expriment plus en fonction, c'est-à-dire en utilisant les mots phobie, en utilisant les mots peur de l'attachement, qui correspondent plus au vocabulaire, j'ai envie de dire, plus facilement utilisé dans un cabinet de psychologie. Et les gens, dans la manière de l'exprimer, s'adaptent aussi à la manière qu'ont les professionnels de percevoir ce type de problématique.
Daniel Bailly, en tant que psychiatre, et quand on lit effectivement beaucoup d'ouvrages, et en particulier le vôtre, hein, sur la peur de la séparation, il y a cette tranche d'âge, on va dire, et ça commence très très tôt, entre 8 et 11 ans. C'est une période, une tranche d'âge assez charnière, hein, pour ce ressenti et cette peur de rester seul, en tout cas, et de la peur de l'abandon.
Mais c'est pas une période charnière, c'est que c'est à cet âge-là, généralement, que ça se dévoile. C'est-à-dire que dans notre développement, on passe par une étape au cours de laquelle l'angoisse de la séparation est normale. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de la séparation développementale. C'est la période où le bébé se rend compte qu'il est différent des autres, mais aussi qu'il est dépendant des autres. Et à partir du moment où il a fait la distinction entre sa figure d'attachement, qui est souvent la mère dans notre société, et les autres, et qu'il se sent dépendant de cette mère, il développe cette peur de la séparation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le développement, notre développement cognitif, par exemple, puisqu'on va développer la capacité de supporter des séparations temporaires de plus en plus longues, le développement affectif qui va faire qu'on va pouvoir nouer des attachements secondaires avec d'autres personnes, notre développement social qui va faire qu'on va sortir de la maison, découvrir le monde et d'autres gens, d'autres possibilités de relations, cette peur de la séparation va progressivement diminuer pour aboutir normalement à la fin de l'adolescence à une prise d'indépendance et à notre autonomie.
À la fin de l'adolescence, mais il y a aussi, pourtant il y a d'autres périodes, et je parle, ça c'est du vécu, c'est-à-dire que vous avez une préadolescence ou même l'adolescence proprement dite, où là, on sent bien qu'à un moment donné, il y a une sorte de détachement où l'adolescent a vraiment envie de couper le cordon et de dire, voilà, laissez-moi vivre un peu à ma façon.
Ça c'est autre chose, c'est-à-dire que ceux qui ont une peur de la séparation, cette période-là, ils ne peuvent pas la vivre de cette façon-là.
D'accord.
C'est-à-dire que à l'adolescence, effectivement, il y a une période de l'adolescence au cours de laquelle l'adolescent doit rompre avec les habitudes et les valeurs qui l'ont façonné jusqu'à présent, qui sont les habitudes et les valeurs parentales. Le problème, c'est que les enfants qui ont développé une peur de la séparation ne peuvent pas vivre cette période-là. C'est-à-dire qu'ils vont rester dépendants quasiment tout le temps durant leur développement. Et quand vous parliez de la période de 6-11 ans, c'est là que cette peur de la séparation se démasque. Et on le voit bien, par exemple, à l'entrée à l'école maternelle ou à l'entrée à l'école primaire. Vous savez, ces enfants qui pleurent de façon interminable, qui s'agrippent aux jupes de maman, qui sont apathiques au cours de la journée, qui ne peuvent rien faire sans avoir une personne familière à côté d'eux. C'est ces enfants-là qui vont développer ce style de peur après.
Et là, le problème, c'est que rentre en ligne de compte, là aussi, la culpabilité, notamment des parents et de la mère, la plupart du temps.
Bien sûr.
Parce qu'on se dit, on a loupé quelque chose.
Alors,
on a mal fait quelque part, on a loupé le coche.
Ça dépend, parce que alors c'est vrai qu'il y a toujours une culpabilité quand on leur montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est que c'est un trouble qui est difficile à repérer dans la mesure où certaines mamans vous disent « mais vous savez, il est très attaché à moi
oui. ».
Le problème, c'est qu'entre être très attaché et être trop attaché, la différence est parfois minime, mais elle est fondamentale en termes de développement. Après, quand les choses sont repérées et expliquées, bien sûr qu'il y a de la culpabilité, mais on explique toujours aux parents que, au fond, l'éducation, c'est une rencontre avec un enfant et des parents. Et que les parents s'adaptent à ce qu'est l'enfant, et l'enfant essaie de s'adapter à ce que sont ses parents. Quand ça rate, c'est ni de la faute de l'un, ni de la faute de l'autre.
Ouais. Nicolas Bichot, psychologue, quand on parle de cette culpabilité, même si c'est ni de la faute de l'un, ni de la faute de l'autre, on sent bien qu'il y a des parents qui doivent un petit peu être dépourvus de solutions, quoi. Ils doivent véritablement se poser des questions quant à l'attitude de leurs enfants ou adolescents.
Oui, ça peut arriver, mais comme disait Daniel Bailly tout à l'heure, la peur de rester seul est intrinsèquement dépendante en fait à la sécurité intérieure que développe l'enfant. Et c'est aussi c'est aussi là-dessus qu'on joue en thérapie en fait. On implique les parents à développer aussi un cadre dans lequel l'enfant peut construire une base de sécurité pour pouvoir simplement explorer des moments d'autonomie où les parents ne sont pas là et où il peut vivre simplement avec l'image et la représentation de ses parents. Mais c'est vrai que généralement c'est des problèmes qui sont un peu liés à la condition humaine, c'est-à-dire que dès la naissance on ne survit pas sans les autres, sans l'aide des autres, simplement on meurt, et en même temps les autres ne peuvent pas nous apporter l'exclusivité de nos besoins, donc on a aussi besoin d'une certaine part d'autonomie. Et c'est toujours un petit peu ce dilemme, un petit peu cet équilibre entre fusion et autonomie qui se joue et qui peut parfois être à l'origine des difficultés qui s'écoutent en entretien. Oui.
Il y a une phrase qui est assez étonnante, mais qui résume peut-être en fait cette situation, cette peur de la solitude. Certains spécialistes disent ceci: la solution pour ne plus avoir peur de la solitude, c'est justement de se retrouver seul. Est-ce que c'est une bonne solution, docteur Bailly?
C'est pas de se retrouver seul, c'est d'être capable d'être seul. Le problème des gens qui ont ce type de peur, la peur d'être seul, la peur de se retrouver face à eux-mêmes, c'est justement parce qu'ils n'ont pas développé les capacités à être seul. Et ils deviennent complètement dépendants des autres. Mais ça peut aller jusqu'à être incapable de faire des choix sans avoir l'aval de celui ou celle à qui il est attaché. Donc on ne va pas les mettre en situation d'être seuls parce que eux ne supporteront pas ce genre de choses. Par contre, il faut que dans la petite enfance, l'enfant fasse ces expériences-là. Et pour le faire, il a besoin d'une sécurité interne. Pour explorer le monde, il a besoin d'une sécurité interne.
Alors ça se traduit comment pour le parent, dans les faits, dans les actes, au quotidien? Que doit faire justement le père ou la mère pour donner cette confiance, tout en le laissant vivre un petit peu sa vie, mais tout en étant suffisamment sécurisant?
Alors, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre.
Ah.
C'est-à-dire que l'éducation, c'est pas comme le jardinage. Il n'y a pas des règles.
Ouais.
L'éducation, c'est un problème d'adéquation entre les besoins de l'enfant et ce qu'il est, et les réponses que l'environnement va lui apporter. Une même attitude face à des enfants différents n'aura absolument pas les mêmes effets. C'est-à-dire que les enfants naissent avec des tempéraments différents. Ce qui est important à dire, c'est que, au fond, la première chose à faire pour les parents, c'est d'essayer de percevoir ce qu'est son enfant. Il y a des enfants qui vont explorer le monde tout seuls. Mais ils vont l'explorer tellement tout seuls qu'ils vont se mettre en risque, par exemple.
Oui, ça, c'est pas faux, oui.
Et puis, il y a des enfants qui vont être inhibés et qui vont avoir peur de l'extérieur, qui vont avoir peur du non-familier, qui vont vivre le monde comme un monde hostile. Et lui, il va falloir l'aider à s'autonomiser.
Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3 dans ce
non,
que vous nous dites.
Non, absolument pas.
Ouais, c'est ça.
Absolument pas.
Mm.
Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut faire confiance à son enfant.
Ouais.
C'est, vous savez, la peur de la solitude comme ça, très souvent, on voit des attitudes parentales qui sont des attitudes de surprotection. Un enfant timide, on aura tendance à le surprotéger.
Eh oui, alors que c'est précisément l'inverse.
Paradoxalement, ça va aggraver cette timidité.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et en même temps, il ne faut pas le confronter aux situations qu'il redoute. Parce que si on le confronte comme ça, il risque effectivement d'être angoissé, ce qui va renforcer sa peur des situations redoutées.
Alors, on va continuer à parler de ça parce que c'est intéressant, mais c'est évidemment la situation lorsqu'on élève ses enfants et qu'on doit prendre conscience en tant que parent qu'il faut réussir, bien sûr, à trouver ce juste milieu, ce que disait le docteur Bailly il y a un instant, entre le fait de le laisser un petit peu explorer la vie, son monde qui l'entoure, et puis le fait d'être quand même sécurisant pour éviter qu'il y ait des dérapages. Mais lorsque on arrive à l'âge adulte et qu'on a ce symptôme, et que, enfin, qui n'est pas un symptôme, j'ai bien compris, mais cette peur de cette solitude, la peur du silence, la peur de l'obscurité, la peur de soi-même, de se retrouver face à son monde intérieur, à ce moment-là, quand on est adulte, et qu'il serait peut-être temps à un moment donné de voler de ses propres ailes, que fait-on? Comment remédier à cela? Nous voyons ça avec Nicolas Bichot et avec Daniel Bailly. Tout de suite.
Le Mac de l'après-midi, Sud Radio.
Marc Leval.
La peur de la solitude, je le disais tout à l'heure, la peur du silence, de l'obscurité, la peur de se retrouver avec soi-même. Tiens, j'ai même un témoignage, là, à l'instant, d'Élodie. Elle a 40 ans, elle est sans profession, et elle dit ceci: à la maison, je partageais ma chambre avec deux de mes sœurs, quand elle était évidemment petite. L'intimité n'existait pas, il y en avait une qui était dans la salle de bain, l'autre se maquillait, et l'autre se douchait. Bref, je suis passé de chez mes parents à la vie de couple, j'ai 4 enfants aujourd'hui, je garde 2 bébés pour gagner ma vie, et il y a toujours quelqu'un à mes côtés. Et donc, du coup, les rares moments où je suis seul, j'ai peur d'avoir un malaise et que personne ne soit là pour me secourir. Je sursaute au moindre craquement, c'est tellement stressant que j'appelle ma mère, une voisine ou quelqu'un, en tout cas une amie au téléphone pour passer des heures à discuter et sentir sa présence. Nous sommes avec le docteur Daniel Bailly, psychiatre qui a écrit La peur de la séparation aux éditions Odile Jacob, avec Nicolas Bichot également qui est psychologue. Nicolas et Daniel, on l'a bien compris là dans le témoignage d'Élodie, il y a effectivement quelque chose qui s'est passé très très tôt dans sa vie et dont les conséquences se reflètent aujourd'hui de manière très très concrète, hein, Nicolas. Hein. Nicolas, une fois, deux fois, il est parti, Nicolas, on l'a plus ?
Oui, non, je suis là.
Oui, vous avez entendu le témoignage d'Élodie, hein. Même à 40
oui,
ans,
oui.
À 40 ans, elle subit encore complètement la situation et le fait d'être passée, en tout cas, d'une vie où il n'y avait quasiment pas d'intimité avec ses sœurs, à une vie de couple, et la transition a été assez brutale, visiblement.
Oui, la transition a été brutale, mais bon, généralement, ce qu'on voit en entretien avec ce type de personnes, c'est très très rare qu'une personne arrive dans un entretien et ne connaisse absolument aucun moment de solitude, aucun moment de solitude dans lequel elle se sent pas bien. On essaye de voir justement comment amplifier les meilleures expériences de solitude que la personne a eues. Ça, c'est quelque chose. Mais je ne sais pas quelle était votre question.
Non, la question, il n'y avait pas de question nécessairement. C'était simplement de fait d'attester au travers du témoignage d'Élodie qu'il y avait une vraie souffrance et qu'encore une fois, depuis ce qu'on dit depuis une demi-heure, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont on a eu cette éducation, étant petit, évidemment, il y aura, par voie de conséquence, des situations très difficiles à gérer à l'âge adulte. C'est ça, en fait.
Ah oui, effectivement, les premières expériences marquent beaucoup les expériences suivantes à l'âge adulte. Et en même temps, à l'âge adulte, il est tout à fait possible de renforcer sa sécurité intérieure et de la développer, notamment au travers d'expériences positives. C'est-à-dire que quand, dans une situation donnée, quand on sent qu'on a réellement pris un pouvoir d'action sur certaines choses et que ce pouvoir d'action peut être vérifiable, on peut gagner en confiance. Et si on arrive aussi à faire la part des choses et à lâcher prise sur les situations de la vie quotidienne ou sur les aspects de la vie quotidienne auxquels visiblement on ne peut rien et qui dépendent essentiellement du contexte et des autres, on gagne aussi en autonomie et j'ai envie de dire en confort psychologique.
Oui, mais alors là, Nicolas Bichot, vous venez de prononcer le mot que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce mot qui est donc cette expression, en tout cas, qui est ce fameux lâcher prise. Voilà. Comment peut-on dire à quelqu'un qui est en souffrance, hein, visiblement, comme tous les témoignages dont on a parlé, Alain, Claudie et tout à l'heure Élodie, comment lui dire il faut apprendre à lâcher prise et dans les faits, lui montrer concrètement que le lâcher prise est essentiel pour l'évolution de son bien-être. C'est impossible à comprendre pour quelqu'un qui est en souffrance.
Ok. La souffrance, c'est une des informations auxquelles on est confronté, en sachant qu'il y a beaucoup d'informations qui transitent au travers de nos sens au même moment. On choisit, par exemple, enfin, je ne sais pas si on choisit, mais la douleur, c'est un des aspects de notre expérience qui remonte à notre conscience. Alors, si on dit à une personne lâcher prise, alors effectivement, c'est très compliqué parce que l'esprit humain peut difficilement se satisfaire du vide. Lâcher prise, mais à la place, qu'est-ce que je mets ? Ce qui est important de développer avec les personnes en thérapie, c'est on lâche prise sur quoi et à la place, qu'est-ce qu'on développe ? Quelle capacité on va développer, en fait ? C'est-à-dire que l'esprit a souvent besoin, comment dire, d'être poussé vers un objectif, d'être poussé dans une direction. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner tout, c'est simplement changer de direction.
Est-ce que, docteur Baillet, est-ce que vous utilisez ce mot, cette expression de lâcher prise, qui me terrorise, moi, je ne vous cache pas. Ça, par contre, ça me fait très peur quand j'entends ça.
Je l'utilise rarement.
Ah, merci.
Mais il faut savoir que moi, je ne fais pas de psychothérapie. Enfin, j'en fais plus. Parce que faire de la psychothérapie, ça nécessite d'être disponible.
Mais ça veut dire que les personnes qui ont presque ces névroses, hein, pour qui ça pourrit la vie au quotidien, qui ont cette phobie de la solitude, la psychothérapie, c'est pas la meilleure des solutions ?
Si, c'est pas ça que je veux dire. C'est que moi, pratiquement, je n'en fais plus parce que je n'ai pas les moyens matériels et la disponibilité de pouvoir le faire.
D'accord.
Je suis toujours à droite et à gauche et c'est pas possible. Je voudrais revenir sur le cas d'Élodie parce qu'il est assez parlant. Elle décrit typiquement ce qu'on appelle une agoraphobie.
D'accord.
C'est-à-dire la peur de se retrouver dans des situations où si elle fait un malaise ou si elle se sent mal, elle n'aura pas de secours.
C'est ça.
Et ça, c'est une évolution très fréquente des enfants qui ont souffert d'angoisse de séparation, de la peur de la séparation. C'est-à-dire qu'ils développent des conduites d'évitement de telle façon à ne pas se retrouver seuls parce qu'ils ont peur de quelque chose. Et elle, c'est typiquement ça. Elle a peur de ne pas retrouver son milieu sécurisant de son enfance et de ne pas avoir les moyens de pouvoir faire face si jamais elle fait un malaise.
Donc ça, c'est une situation qui est assez courante, alors ?
C'est assez courant chez les gens qui souffrent de troubles anxieux, oui, c'est assez courant, oui.
Et là, la solution que vous préconisez, vous, c'est, alors au-delà du fait que vous ne puissiez pas le faire, c'est la psychothérapie. Est-ce que c'est la solution idéale, celle qui est la plus efficace pour vous ?
Il faut savoir que la psychothérapie, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il y en a plus de 400 sortes de psychothérapie.
C'est vrai.
On sait maintenant que dans les cas les plus sévères, la stratégie la plus efficace, c'est une association traitement médicamenteux psychothérapie. Dans les formes plus légères ou plus modérées, le traitement de première intention, c'est la psychothérapie.
Oui.
Alors, la psychothérapie, schématiquement, il y en a deux sortes qui sont les plus souvent utilisées. Il y a ce qu'on appelle la psychothérapie cognitivo-comportementale, qui est basée sur l'idée que nos comportements résultent d'un apprentissage. Donc si ça résulte d'un apprentissage, on peut désapprendre et réapprendre des comportements plus adaptés. Et puis il y a ce qu'on appelle les psychothérapies de type analytique, qui sont basées sur l'idée que nos symptômes sont au fond le fruit de conflits internes, de conflits inconscients qui prennent racine dans notre histoire.
Est-ce que ça veut dire
essayer de démasquer ces conflits.
Docteur Bayet, est-ce que ça veut dire que les personnes qui souffrent de cette solitude, qui ont véritablement cette phobie de la solitude, ne peuvent pas régler le problème elles-mêmes, gérer ce problème elles-mêmes ?
Non. Et je pense que si elles en sont arrivées là, c'est parce qu'elles ont toujours cru
pouvoir s'en sortir seules.
Le régler seules. Alors, soit parce que effectivement, elle le croyait, soit aussi parce qu'elles avaient peur d'aller consulter et de ce qu'on pouvait découvrir ce qu'on peut découvrir en consultant quelqu'un. Mais non, on ne peut pas s'en sortir seul.
On va accueillir Alexandra Rivière, qui est avec nous, qui est psychologue clinicienne également. Bonjour Alexandra.
Oui, bonjour.
Merci d'être là sur cette thématique de la solitude. La solitude, et on a entendu au travers des différents témoins dont on parlait en début d'émission, on parlait de Claudie, on parlait également d'Alain. Alors lui, Alain, et pourtant il a 32 ans, il est compositeur, tout va bien pour lui, il est marié avec Marie, sauf que quand elle s'absente, il est perdu. On sent le petit enfant complètement paumé, alors que effectivement c'est un homme qui a une carrière brillante et que tout va bien pour lui de ce point de vue. On a évoqué plusieurs pistes où on parlait presque de névrose, parfois de phobie quand on parle de solitude, quand ça vous pourrit la vie, cette peur du silence, de l'obscurité, cette peur de se retrouver soi-même. Est-ce que ça, dans votre cabinet ou lorsque vous exercez, c'est aussi un sujet que l'on aborde facilement, que l'on reconnaît facilement chez vos patients ?
Oui, tout à fait. Les patients l'abordent assez facilement. Ils en ont conscience la plupart du temps. Tout à fait.
Alors c'est vrai que la psychothérapie, c'est ce que disait Daniel Bailly tout à l'heure, c'est ce que vous préconisez immédiatement ?
Alors oui, moi c'est ce que je préconise parce que je suis psychologue et psychothérapeute. Oui, effectivement, et je pratique donc les thérapies cognitives et comportementales qui sont assez efficaces dans les troubles anxieux notamment. On retravaille l'aspect cognitif de nos patients et les comportements.
Alors c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain ?
Alors concrètement, déjà on peut retravailler donc tout ce qui est donc l'aspect cognitif, c'est-à-dire apprendre à nos patients à s'observer, en fait, à analyser ce qui se passe en eux, physiquement aussi, les émotions et les pensées principalement. Donc c'est ça les cognitions. Il y a souvent des pensées automatiques et négatives qui reviennent dans leur tête, avec par exemple je suis seule, il va m'arriver quelque chose par exemple, je suis en danger. Donc ça on peut le retravailler avec eux, nous on a des outils. Et après on peut travailler aussi l'aspect comportemental, donc effectivement leur apprendre progressivement à réaffronter leur peur. C'est-à-dire là d'être seul avec des petits exercices qu'on peut faire progressivement.
Je voudrais bien avoir deux, trois exemples concrets de ces fameux exercices, par exemple. Comment pouvez-vous inciter quelqu'un qui est dans cette souffrance absolue de cette peur, de cette phobie de la solitude en lui disant, voilà, vous allez devoir vous retrouver seul pour être confronté à vos peurs ?
Alors, ça, on le fait pas tout de suite. D'abord, on voit ce qui se passe. Voilà, d'abord, on travaille beaucoup le cognitif, on revoit beaucoup les pensées, ça nous prend quand même plusieurs séances. Après, on aborde l'aspect comportemental où vraiment de manière très progressive et très douce, on revoit voilà, des petits exercices avec nos patients pour qu'ils réapprennent à être seuls. Mais vraiment, on commence par des petits moments très courts. Et en même temps, on leur demande de retravailler leurs pensées comme on a fait au cabinet.
D'accord. Et ça, s'ils le font quand ils sont chez eux, seuls.
Voilà, c'est ce qu'on appelle des exercices en exposition, c'est-à-dire qu'ils vont faire des exercices directement dans la situation anxiogène.
Nicolas Bichot, vous aussi également, en tant que psychologue, vous avez le même mode de fonctionnement ?
C'est-à-dire qu'en fait, moi je pratique pas mal l'hypnose, au niveau des troubles anxiogènes, et en fait on considère que l'angoisse en général, c'est une sorte de trans négatif qui est orientée vers le futur en fait. Donc, une des choses qui peut être assez intéressante avec les personnes, c'est justement de revenir dans le présent, au moment présent. Généralement, ça peut passer autour d'exercices assez simples, Quand, par exemple, sous une certaine forme de transe, je demande à certains patients de se concentrer sur les sensations de leurs pieds et que je leur demande si maintenant les pensées angoissantes sont présentes, la plupart du temps, ils me disent que non, en fait.
Alors attendez, parce que vous leur demandez, sous hypnose, vous leur demandez de se concentrer sur leurs pieds?
Si, par exemple, sur les sensations qui viennent dans le pied, ça peut être sur le poids, la température, l'ancrage sur le sol. Et dès qu'en fait, la conscience est orientée sur des sensations qui sont corporelles et qui finalement expriment une certaine forme de sécurité, car nos sensations corporelles, comme la respiration, sont permanentes, en fait. C'est quelque chose qui est toujours en nous. Et ben, généralement, on se rend compte qu'en fait, l'esprit est juste orienté d'une manière différente, c'est ce que je vous disais. Et c'est ça qu'en fait, c'est de cette manière-là, en fait, c'est en fonction des expériences permanentes qu'on développe une certaine forme de sécurité. Et quand je vous disais, par exemple, tout à l'heure, quand je faisais référence au lâcher-prise, je faisais avant tout référence au lâcher-prise sur les choses sur lesquelles nous n'avons, nous, aucun pouvoir.
Vous, Daniel Baillet, vous êtes psychiatre, je le rappelle. L'histoire de l'hypnose, c'est une solution ou ça vous semble un petit peu encore aujourd'hui, pardonnez-moi Nicolas Bichot, peut-être un petit peu farfelu,
Daniel? Alors, moi je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. C'est vrai que en matière de troubles anxieux, la seule modalité psychothérapie qui a fait à ce jour la preuve de son efficacité, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales.
D'accord. Ce que disait Alexandra Rivière tout à
l'heure. Absolument pas photo.
D'accord.
C'est vraiment le traitement de première intention. Maintenant, bien sûr que ça a été aussi la modalité psychothérapique la plus étudiée. Puisque l'évaluation fait partie intégrante des thérapies cognitivo-comportementales. Maintenant, il faut aussi que le mode psychothérapique correspond aux besoins et aux modalités de fonctionnement des patients.
Bien sûr.
C'est aussi pour ça qu'il y a différentes modalités de psychothérapie, c'est-à-dire que chacun doit trouver
celle qui lui correspond.
Les modalités les plus adéquates par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il attend.
Et ça, comment le savoir? C'est quoi? C'est une sorte de check-up avant? C'est-à-dire c'est un bilan que l'on fait avec le praticien et on sait précisément... Alors, lui qui va nous orienter en disant il vaut mieux que vous alliez vers cette direction-là?
Ben, moi, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. C'est-à-dire, une fois que j'ai posé un diagnostic, qu'on a retracé l'histoire du patient... en essayant de comprendre comment les choses se sont articulées et au fond comment on en est arrivé là, je lui soumets toutes les possibilités thérapeutiques en lui disant ce qu'on peut attendre de telle ou telle modalité thérapeutique, mais aussi ses limites. Et après, on en discute. C'est-à-dire que le patient doit aussi, lui, donner ses propres représentations. Qu'est-ce qu'il attend d'un traitement? Qu'est-ce qu'il est prêt à donner? Et c'est à partir de ça, de ce dialogue, qu'on va pouvoir
élaborer,
mettre en place un projet thérapeutique personnalisé.
Ouais, c'est ça. Projet thérapeutique personnalisé avec, encore une fois, tout un travail en amont, on l'a bien compris. Alors on va retrouver Alexandra Rivière, Nicolas Bichot et Daniel Bailly dans un instant. On aura le témoignage de Maryse également qui voulait intervenir, de donner son avis sur cette peur de la solitude, cette espèce de phobie, parfois même dans le registre névrotique, puisqu'il y a des phobies qui, par définition, se retrouvent, sont tellement omniprésentes que ça devient une véritable névrose. Retour et vos questions avec cette thématique sur la solitude, 0826 300 300 tout de suite.
Le Mac de l'après-midi.
Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio.
Bien choisir son thérapeute pour évidemment engager cette psychothérapie nécessaire, en tout cas le fait de s'être bien entouré et d'avoir le soutien d'un professionnel de santé qui saura précisément déceler et choisir la bonne thérapie lorsque vous êtes atteint de ce fameux, pas syndrome ni symptôme, parce que visiblement ça n'est pas le cas, mais cette peur, en tout cas cette phobie de la solitude, pourquoi ne supportons-nous pas de rester seul? Maryse a décidé de nous rejoindre quelques minutes. Bonjour Maryse.
Bonjour Marc.
Merci. Dites-nous, quel est votre problème? Sans doute celui-ci. Vous avez cette peur de vous retrouver seul, de cette solitude?
Non, pas tellement. C'est plutôt peur de quand par exemple ma sœur s'en va, j'ai peur qu'elle ne revienne jamais, qu'elle ait un accident, qu'elle ait quelque chose. Et c'était comme ça avec ma mère, par exemple, avec tous les gens qui m'étaient chers. Et c'est peut-être suite au décès de ma grand-mère, j'avais 3 ans un peu passé. Et après, c'est arrivé, vers 4 ans, je surveillais un peu ma grande-tante, c'était la grande sœur de ma grand-mère, et j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose si elle travaillait trop, si elle faisait ceci, cela, parce que à ce moment-là, il pouvait lui arriver quelque chose. J'avais peur aussi pour ma mère quand elle était encore en vie. J'avais peur quand elle... Parce que... Je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous avez fait du coup, Maryse, pour remédier à cela? Est-ce que la psychothérapie a été nécessaire pour vous? Est-ce que vous l'avez suivie? Est-ce que vous êtes engagée dans cette voie?
J'ai fait 3 ans de psychothérapie pour divers problèmes, etc. Mais la psychothérapie n'a rien changé pour ça. Ah. Et,
vous n'avez peut-être pas choisi le bon canal dans cette psychothérapie, si je puis dire. En tout cas, parce qu'il y a plusieurs orientations, c'est ce que disait le docteur Bailly. Dans une psychothérapie, c'est le terme générique, mais il y a plusieurs angles à prendre. Peut-être c'était pas le bon.
Peut-être, je ne sais pas, ou il aura fallu la faire plus longtemps. Mais disons que ça s'est soldé par une dépression. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez étrange, c'est qu'avoir peur de dire à un homme que je l'aime, parce que si je lui dis, même si je l'aime, je ne peux pas, parce que même s'il m'aime, en plus, c'est pire. Parce qu'à ce moment-là, il risquera de lui arriver un accident, il risquera de mourir. Et alors, c'est quelque chose de terrible, ça,
c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un cercle infini, quoi. C'est-à-dire que vous avez cette phobie de la solitude, et dès l'instant où vous arrivez à remédier à cela, peut-être en ayant un compagnon dans votre vie, vous retombez encore dans cette phobie parce que vous pouvez imaginer qu'il puisse lui arriver quelque chose. Daniel Bailly, psychiatre, votre commentaire sur les premiers mots. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire un diagnostic, hein, c'est difficile comme ça, en quelques secondes sur l'antenne, mais que pensez-vous de ce témoignage de Maryse ?
Le diagnostic est assez simple, c'est une peur de la séparation assez typique. Alors contrairement à ce que Maryse dit, c'est pas un événement qui déclenche ce genre de problème, c'est toute une série de facteurs, comme on l'expliquait en début d'émission, qui tiennent à la fois vraisemblablement à son tempérament, aux événements qu'elle a vécu bien sûr, à la manière dont les gens autour d'elle aussi ont avec laquelle ils ont vécu ces événements et comment ils ont pu transmettre un certain nombre de peurs aussi. Maintenant, c'est clair que la peur de la séparation, ça entraîne des conséquences sur la vie quotidienne terribles. Parce que d'abord, ça restreint les champs des possibilités, c'est qu'on a peur des relations. On a peur de s'engager. Et on va développer des conduites d'évitement qui vont faire que progressivement, notre horizon va se limiter de plus en plus, quasiment à notre environnement familial. Et ça, c'est terrible en termes de développement et en termes de vie quotidienne.
Autre question qu'on pourrait se poser, Alexandra Rivière, vous êtes psychologue clinicienne. Quand on écoute le témoignage de Maryse, 3 ans de psychothérapie pour un résultat zéro. Il y a un problème quand même.
Alors, je ne pense pas qu'elle a eu un résultat zéro. Hein. Peut-être qu'elle pourra en parler, mais je pense qu'elle a quand même appris des choses sur elle et elle a dû avancer sur plusieurs problématiques.
En tout cas, ça n'a pas réglé son problème existentiel.
Oui, ça n'a pas réglé son problème, oui, tout à fait. Là, il faudrait voir comment s'est passée la thérapie. Donc, c'est pas possible. Il faudrait voir aussi ce qu'elle a investi et quelles étaient ses peurs même au sein même de la thérapie.
Ah oui, parce qu'il peut y avoir aussi des peurs de la thérapie. Alors là, évidemment, on n'en sort plus. Hein.
De quoi elle a parlé? Est-ce qu'elle a parlé de la peur de la mort? On voit qu'elle a véritablement ses peurs. Hein. Elle a peur que les personnes qu'elle aime en fait soient en danger, qu'elle les perde à nouveau. Ouais. Là, il y a une vraie peur existentielle de la mort, en fait, hein, ouais. Du danger intrinsèque d'une personne.
Ouais, de la mort, du danger, de la séparation. Docteur Bailly, 3 ans de psychothérapie pour ce résultat-là. D'où est le problème? D'où vient le problème, à votre avis?
C'est ce que disait l'interlocutrice précédente, c'est-à-dire que oui, il faut voir quel type de thérapie elle a faite et quel investissement elle a mis dans sa thérapie, parce que la résistance au changement, ça existe. Il faut bien comprendre aussi que nous nous construisons selon certaines modalités et que changer, ça veut dire sauter dans l'inconnu. Et c'est pas aussi simple que ça. Et que généralement, avant d'entrer réellement dans la thérapie, il faut tout un temps où le patient apprivoise le thérapeute et où le thérapeute apprivoise le patient, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Je crois que le maître mot, c'est confiance.
Oui. De part et d'autre.
Oui. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir construire quelque chose. Mais cette confiance-là, elle n'est pas donnée immédiatement.
Oui, hein.
C'est pas quelque chose qui va de soi.
Évidemment. Maryse, aujourd'hui, pour terminer, vous, comment allez-vous ? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, est-ce que vous continuez cette psychothérapie ? Est-ce que vous avez d'autres thérapies en parallèle ?
Mais je vais en reprendre une psychothérapie. Mais de toute façon, je voulais dire que par rapport à la psychothérapie, je me suis lancée à corps perdu et j'ai tout dit sans rien.
Sans modération,
voilà, sans pudeur, sans aucun barrage, parce que pour moi c'était dire si j'allais, il fallait jouer le jeu. Alors,
oui,
et là j'ai un psychiatre, je l'ai vu qu'une fois, mais je dois commencer à aller le voir, et je veux recommencer parce que j'y tiens et je trouve que c'est très important, parce que j'ai pas envie de rester avec
comme ça, évidemment.
Ces souffrances.
Évidemment, on vous souhaite plein de bonnes choses, Maryse. Merci mille fois pour votre témoignage. J'invite à lire le livre La peur de la séparation aux éditions d'Odile Jacob du docteur Daniel Bailly, qui était mon invité. Merci beaucoup, docteur, pour votre expertise.
Merci
infiniment.
À vous.
À très bientôt. Merci à Nicolas Bichot également, qui est reparti, psychologue. Et puis merci à Alexandra Rivière, psychologue clinicienne. Merci beaucoup pour votre analyse, à vous également, et votre expertise. J'aurai le plaisir de vous retrouver, si vous le souhaitez, une nouvelle fois sur l'antenne. Merci, Alexandra.
Merci à vous.
À très bientôt. On marque une pause et puis les infos avec la rédaction des sports, Rugby et compagnie. Ce sera dans moins de 7 minutes. À tout de suite.